Bien, donc aujourd'hui on va aborder donc en gros l'histoire de Florence pendant la période considérée, en allant un tout petit peu plus loin que pour avoir quelques éléments un peu aussi sur la mise en place définitive du gouvernement de Médicis entre 1530 et 1537. Mais vous savez que la période qu'on a définie, c'est donc essentiellement la période 1494-1530. Hein, c'est là-dessus qu'on insistera. Donc, pourquoi cette idée du laboratoire florentin? Eh bien, parce que pendant cette période, Florence a connu donc non seulement des bouleversements politiques, mais parallèlement et lié à ces bouleversements politiques eux-mêmes provoqués par la période de guerre qui s'est ouverte avec l'arrivée des troupes françaises de Charles VIII à l'automne 1494, eh bien, parallèlement à ça, Florence a connu une floraison de réflexions et de textes sur l'histoire et la politique. Alors, les œuvres, évidemment, le personnage qu'on connaît le plus, c'est les œuvres de Machiavel, et dans Machiavel, Le Prince, et dans Le Prince, les chapitres 15 à 18, dans les chapitres 15 à 18, deux lignes, hein, qui sont Andar drieto, la vérité effettuale de la cause, et il faut pas hésiter à ne pas tenir parole, et on a Machiavel, mais là, on a Machiavel comme arbre qui cache la forêt. Donc les œuvres de Machiavel, qui sont l'illustration, en effet, la plus célèbre de cette conjoncture spécifique, ne devraient être lues qu'à la lumière de ce que produit ce laboratoire florentin. Laboratoire florentin qui fait office de creuset pour la fondation d'une nouvelle pensée de la politique, et où le caractère exceptionnel de la situation, les dangers qu'elle fait courir à Florence sont au fondement de ce foisonnement de réflexion politique. Donc, parler de Machiavel suppose donc de parler, entre autres, ce que nous ferons pendant le cours de cette année, de Francesco Guicciardini, de Girolamo Savonarola, mais aussi, et là on les verra plus de façon plus erratique, plus rapide, mais enfin, parler de Francesco Vettori, parler de Piero Di Marco Parenti, etc. C'est avec l'aide de tous ces auteurs qu'il faudra penser le républicanisme florentin. Et ce républicanisme florentin, il faudra avoir en tête qu'il se développe parce qu'à l'origine de ces textes, il y a à tout moment la question de la survie de la République. Et parce que ces acteurs auteurs, hein, parce qu'ils sont auteurs de textes, penseurs de la politique, mais ils sont avant tout acteurs de la vie politique de leur cité et de la République florentine. Donc ces acteurs et penseurs florentins eurent conscience collectivement d'entrer dans une nouvelle époque de l'histoire de leur cité. Et donc les textes qu'ils écrivent sont des tentatives pour donner des réponses qui peuvent être divergentes, mais qui partent de questions semblables. Et qui partent de questions semblables parce que ces questions sont insérées, sont provoquées par ce moment historique dont les frontières ne sont pas fixées par l'histoire des idées, mais par celle des champs de bataille. Voilà. Donc, en gros, pour vous dire donc que c'est tous ces Florentins qui éprouvent le besoin de faire l'histoire d'un présent bouleversant, veulent comprendre ce moment, veulent prendre parti dans ce moment, veulent comprendre et faire comprendre. Écrire l'histoire du temps présent, faire ce travail d'élucidation politique, est une sorte de nécessité personnelle du citoyen, constitutive de son appartenance au corps politique et à la communauté de ceux qui peuvent avoir accès aux charges publiques. De cette pratique de réflexion et de débat commune, va naître, naît, pour l'ensemble de l'Occident, une nouvelle façon d'écrire l'histoire et la politique, les deux textes emblématiques de cette nouveauté étant Le Prince de Machiavel et, ça on l'a plus oublié, mais ça a été vrai, en tout cas, ça a été conçu comme tel au moins jusqu'au XVIIIe siècle, La Storia d'Italia de Francesco Guicciardini. Deux textes qui sont des bornes dans la réflexion occidentale sur la façon de réfléchir à l'histoire et d'écrire et de réfléchir et d'écrire l'histoire et la politique. Alors, bon, ça c'est en gros un peu le cadrage, l'explicitation de cette nécessité qu'on a, avant d'aborder les œuvres, de les cadrer à l'intérieur d'un moment et d'un lieu spécifique, Florence, au moment des guerres d'Italie. Le titre aurait pu être Florence à l'époque des guerres d'Italie. Alors donc, ce que je vais commencer à vous donner maintenant, et il faudra peut-être d'autres séances pour le faire en entier, c'est donc des bornes du débat qui se déroule à Florence, du débat à la fois pratique et dans les textes, dans les écritures. Donc vous voyez, le plan est purement chronologique, un découpage chronologique simple. On abordera successivement la période où, après la fuite de Pierre de Médicis, se met en place le débat qui aboutit à la décision d'instituer le Grand Conseil. Donc c'est Florence, novembre-décembre 1494, la naissance du Grand Conseil. Ensuite, la période donc qui va de 1494 à 1512, vous savez qu'elle est scandée au moins par deux éléments importants, la chute des Savonaroliens, la chute des Piagnoni et l'exécution de Girolamo Savonarola en 1498. Elle est scandée également par une nouvelle institution importante qui est le Gonfalonierat à vie. Et vous savez que ça sera Piero Soderini qui sera élu en 1502, donc ça sera le deuxième point. Ensuite, 1512-1527, première restauration des Médicis. 1527-1530, après le sac de Rome, seconde république du Grand Conseil. Et mise en place d'un retour des Médicis, mais cette fois-ci non plus sotto ombra di Repubblica, mais vraiment avec la mise en place du Principato, avec les deux étapes, la première étant celle de les sept années d'Alessandro de Medici, et après son assassinat par Lorenzino de Medici en 1537, l'élection de Comte Ier, ce coup-ci, c'est réglé, il n'y a plus de République, il y a un Principat. Ouais. Alors, on commence par la naissance du Grand Conseil, Florence, novembre-décembre 1494. Alors, là, je vous ai mis là un texte tiré de la Storia d'Italia de Guicciardini qui situe le début du processus. Il faut d'abord rappeler que il y a un point important, c'est qu'en gros, dans le tout début de la Storia d'Italia, les premières pages, donc après avoir dit qu'il va raconter cette histoire de l'Italie bouleversée par les guerres des gens d'Outremont, hein, degli Oltramontani. Et il fait un tableau avant de rentrer dans le vif de son sujet. Il fait un tableau de l'âge, un espèce d'âge d'or, enfin une espèce d'âge d'or, âge d'or qui se définit non pas comme âge d'or, mais comme la situation avant que les bouleversements introduits par le début des guerres ne transforment totalement. Vous vous rappelez de la formule que je vous ai lue la semaine dernière, ne transforme complètement les États, la façon de les gouverner et la façon de faire la guerre. Hein? Donc, par opposition à ce que connaît l'Italie et à ce que connaît Florence à partir de 1494, on a cette espèce de mise en place de l'Italie bilanciata, in modo bilanciata, hein, par la politique en particulier de l'homme de Médicis, évidemment très discutable, parce que c'est toujours discutable de dire il y a eu un âge d'or, voilà, hein, évidemment, mais par rapport à ce qui se passe après, évidemment, on comprend que cette situation d'équilibre interne, cette situation d'équilibre dans laquelle Florence et le principal dirigeant de Florence, Lorenzo de Medici, joue un rôle déterminant, évidemment, espèce de point de référence auquel aspirent les Florentins qui, en fait, eux, connaissent les bouleversements de la période successive. Alors, là, le passage de Francesco Guicciardini explicite assez bien les erreurs qu'on va reprocher à Piero de Medici au moment de cette arrivée des Français, hein, et qui vont expliquer qu'il soit chassé. Hein. Vous voyez, donc ça, c'est un texte qui est écrit quand même donc autour de 1537, enfin voilà, pour le dire rapidement, hein, et le jugement, vous voyez, qui fait écho à des jugements sur Pierre qui sont dans le texte que vous avez au programme, le dialogue del Reggimento di Firenze, hein, misurando più le cose con la volontà che con la prudenza, prestando troppa fede a se stesso, e persuadendosi che questo moto s'avesse a risolvere piuttosto in rumori che in effetti, confortato al medesimo da qualcuno dei ministri suoi, corrotto, secondo si disse, dai doni di Alfonso, deliberò pertinacemente di continuare nell'amicizia aragonese. Donc, au moment où on apprend que le roi de France, en personne, vient en Italie pour s'emparer de Naples. Alors, o autori da non disprezzare. Donc c'est intéressant parce que c'est sur la façon d'écrire l'histoire. Hein. O autori da non disprezzare. Il a des informateurs, des textes. Effectivement, il écrit sa Storia d'Italia avec, je vous l'ai dit, avec les archives de Florence, parce qu'il les a récupérées à la fin du siège, au moment de la reddition de Florence, et il les a emmenées chez lui. Il a tous les textes, toutes les histoires écrites sur l'époque, y compris en français, enfin on a des notes, il a des fiches, il fait des fiches, quoi. Il ne prend pas des notes avec son ordinateur, mais il a des fiches, enfin, dans les archives de la maison Guicciardini, on a tout ça, ce matériel gigantesque, bon, sur Froissart, sur Comines, sur les textes à la fois des Français et des Italiens. Et puis il a des gens avec qui il a discuté. Là visiblement, autori da non disprezzare, c'est probablement des textes de lettres, hein, qu'il a en main. Che Piero, non contento dell'autorità la quale aveva il padre ottenuta nella Repubblica, benché tale che secondo la disposizione sua i magistrati si creavano, donc ça c'est le système médicéen, hein, c'est, voilà, les magistratures et les gens qui ont les magistratures sont en fait sous apparence du respect des procédures républicaines, sont en fait désignés par les Médicis. Hein. C'est un point sur lequel on reviendra en lisant d'autres textes, etc. Mais c'est, voilà. Da quali le cose di maggiore momento, non senza il parere suo, si deliberavano, aspirasse a più assoluta potestà e a titolo di principe. Hein. Vous voyez que là, il dit encore plus clairement que ce qu'il dira, ce qu'il a dit avant, puisque le texte du Dialogo del Reggimento, une dizaine d'années avant qu'il commence à écrire la Storia d'Italia. Mais là, il dit clairement, hein, il aspirait à un pouvoir absolu, hein, et au titre de prince. Non misurando saviamente le condizioni della città, la quale, essendo allora potente, molto ricca e nutrita già per più secoli con apparenza di repubblica, e i cittadini maggiori soliti a partecipare nel governo, più presto simili a compagni che a sudditi, non pareva che senza violenza grande avesse a tollerare tanta e sì subita mutazione. C'è vraiment l'hypothèse que, attention, et on voit bien qu'il faut la longue période, et que quelqu'un comme Guicciardini, à la fin même de sa vie, pense encore qu'au moins il faut garder l'apparenza di Repubblica. Hein. Et il le pense à un moment où c'est, ouais, pour le coup, hein, c'est des espoirs de vieux monsieur, hein, parce que c'est réglé, là, en 35-37, c'est réglé complètement. Il le pense encore. C'est-à-dire, faut comprendre bien cette force, parce que si on comprend pas ça, on comprend pas tout ce qui se passe, les textes, etc., qu'on va lire, tout ça, la force de la tradition républicaine. Hein. Au moins, maintenir les apparences de la République, ce qui veut dire aussi les apparences de l'equalità. Donc, les apparences de la République, c'est donc l'hypothèse de la libertà florentina, dans son double sens, hein, dans son double sens, indépendance vis-à-vis des autres puissances italiennes ou étrangères, et forme républicaine de gouvernement. Libertà, complètement liée à la Repubblica. Et l'autre concept, l'autre aspiration complètement liée à cette idée de Repubblica, c'est equalità. Hein? Et cittadini maggiori, soliti a partecipare nel governo, più presto simili a compagni che a sudditi. Hein? Certes, les Médicis sont les primi, mais ils sont les primi inter pares. Ils sont au milieu d'égaux qui leur reconnaissent un rôle spécifique. Hein? Donc, et c'est pour ça que je vous ai mis cette citation. Donc, du coup, la conclusion, c'est que c'était pour appuyer questa sua, pour sostentare questa sua cupidità, hein, era per farsi uno appoggio potente alla conservazione del nuovo principato, immoderatamente ristrettosi con gli aragonesi e determinato di correre con loro la medesima fortuna. Donc, là, il dit très clairement que une des hypothèses, et que cette hypothèse, il l'a lue chez des gens d'un non disprezzare, dont la vie n'est pas à mépriser, hein, que la raison pour laquelle Piero de' Medici s'est resté presque jusqu'au bout, parce que on va voir après son le fait qu'il lâche tout en fait très très vite face aux Français. La double raison qui fait qu'il est chassé de Florence, hein, mais que c'est avec l'intention d'établir un principato à Florence, donc de briser la tradition républicaine de Florence, d'aller au-delà de la pratique de son père, de son grand-père et de son arrière-grand-père, hein, Lorenzo, Piero et Cosimo il Vecchio, qu'il a fait cette erreur politique de restringersi con gli aragonesi. Et d'abandonner donc un autre point important de la tradition florentine, qui est l'alliance avec le royaume de France. Alors, donc ça c'est le point de départ. Il se trouve que les Français arrivent beaucoup plus vite que prévu, quoi, c'est ça, hein, arrivent beaucoup plus vite que prévu. Et là, en bouleversant d'une certaine façon, è modi della guerra, et en particulier parce que leur artillerie est désormais très très efficace, c'est-à-dire que c'est une artillerie beaucoup plus légère, les pièces sont beaucoup plus légères, les canons n'envoient plus des comme ça des rochers, mais des boules, hein, des boulets en fer. Donc du coup, les canons peuvent être tirés par des chevaux, alors qu'auparavant les canons qui existaient, mais ils étaient très très lourds, ils tiraient comme ça, non pas des obus, mais des espèces de monstrueux cailloux, enfin, etc. Fallait les mettre en place, les enterrer. Ça prenait un temps fou. Ça pouvait être tiré que par des bœufs, donc ça allait très lentement. Là, l'artillerie se déplace très rapidement. Elle peut être mise très rapidement en place. Et donc, les Français se contentent de dévaster quelques bourgs, etc. Et comme je vous rappelle la citation, ils prennent l'Italie en quelque sorte col gesso, hein, avec comme ça la craie des fourriers. Hein. Alors ce qui est bien que le 30 octobre 1494, Charles VIII est tout près, enfin, il arrive sur le territoire du domaine florentin. Pierre de Médicis est affolé parce qu'il pensait que ses alliés aragonais, les Aragonais de Naples, allaient au moins faire bonne figure face aux troupes françaises. Et donc, il prévient personne. Là, une fois de plus, il prévient pas en particulier. Il n'applique même pas le minimum des procédures de l'apparenza di Repubblica, qui consiste à dire et à demander aux magistratures officielles, et en particulier à la signorie, lui demander l'autorisation d'aller discuter avec Charles VIII. Il va lui-même, il prend l'initiative d'aller discuter avec Charles VIII. Il le rencontre le 30 octobre 1494, et il cède à toutes les requêtes françaises. C'est-à-dire que Comines dit une phrase du type « Il nous a donné toutes les clés du territoire florentin ». Enfin, donc il donne les bourgs fortifiés de Sarzana, Sarzanello, Pietrasanta, les forteresses de Pise, le port de Livourne, etc. Ouais. Ces concessions signifient donc une autre expression de Comines que Charles VIII remettait leur état et leur force aux Français. Hein. Alors, il rentre à Florence et quelques jours plus tard, il n'est pas très bien reçu, quoi. Et là, le texte de Guicciardini explicite très, très nettement la façon dont ça se passe. Hein. Ritornato Piero de' Medici à Firenze, trovò la maggiore parte dei magistrati alienata da lui e sospesi gli animi degli amici di più momento. Hein, les amis de plus d'importance, hein, donc le cercle. L'expression « il cerchio », qui non è nel cerchio, vous l'avez trouvé dans le dialogue de reggimento differente, les gens de l'entourage direct. Perché contro il consiglio loro aveva tutte le cose imprudentemente governate, du début, l'alliance avec les Aragonais, à la fin, le fait d'avoir cédé l'État et les forces de Florence aux Français, hein, donc imprudenza, absence, non, prudenza dans le sens vraiment fort de la sagesse, hein, donc imprudenza, l'absence de sagesse. Donc, même les amis n'étaient pas les magistrati et les amis, il popolo, in tanta sollevazione, che volendo egli il dì seguente, che fu il dì 9 di novembre, entrare nel palazzo nel quale risiedeva la signoria, magistrato sommo della Repubblica, gli fu proibito da alcuni magistrati che armati guardavano la porta, dei quali fu il principale Jacopo dei Nerli, giovane, nobile e ricco, il che divulgato per la città, il popolo subito tumultuosamente pigliò l'armi, concitato con maggiore impeto perché Paolo Orsini, con i suoi uomini d'arme, chiamato da Piero, s'approssimava, donde egli, che già alle sue case ritornato era, perduto d'animo di consiglio e inteso che la signoria l'aveva dichiarato ribelle, si fuggì con grandissima celerità di Firenze, seguitandolo Giovanni, cardinale della Chiesa romana, e Giuliano, suoi fratelli. Hein, Giovanni étant le futur pape Léon X, hein, ai quali similmente furono imposte le pene ordinate contro i ribelli e se ne andò a Bologna. Hein, voilà, il reviendra jamais à Florence puisque il va mourir en 1503 en exil. Alors, à ce moment-là, se pose, popolo e libertà, criaient les Florentins, hein, popolo e libertà. Et, donc ce qui se pose comme question, c'est quel régiment, quel governo pour Florence, hein. Est-ce qu'on va revenir aux formes institutionnelles d'avant 1434, hein. Et évidemment, parmi i maggiori cittadini, hein, parmi gli amici di più momento dei Medici, mais aussi ceux qui, et plus encore ceux qui avaient été mis de côté par les 60 années de gouvernement florentin, de gouvernement des Médicis. L'idée la plus simple, c'est de dire, bon ben, on fait comme avant 1434, c'est-à-dire qu'il faut qu'on fasse un nouveau squittino, il faut qu'on mette en place une balia, et en attendant, pour permettre que les institutions continuent à être élues, etc., à être désignées en tout cas, On va mettre en place des accoppiatori. Voilà. Alors, donc il y a des premières décisions, enfin, sont prises par la signoria. Donc la signoria, elle est élue toutes les deux mois. Donc celle-là, c'est celle qui est rentrée en fonction le 1er novembre 1494, et qui reste en fonction jusqu'à fin décembre 1494. C'est elle qui se trouve face à la nécessité de prendre des mesures pour réfléchir à ce que va être à partir de maintenant, puisque les Médicis se sont enfuis et qu'ils ont été déclarés rebelles, le Governo e Reggimento di Firenze. Le 2 décembre 1494, la signoria convoque un parlamento et fait adopter une série de mesures. Alors le texte de Luca Landucci, donc qui tenait un diario hein, des événements florentins. C'est un uomo, ce qu'on appelle un uomo di mezzo, hein, pas quelqu'un de ces grandes familles d'oligarques. Hein, ça sera quelqu'un qui croira totalement au discours savonarolien pendant les quatre premières années de la Nouvelle République, dont les enfants seront parmi i fanciulli del frate, hein, ces enfants réformés, enfin voilà, qui sous l'influence des dominicains de Saint-Marc, vont s'en prendre désormais aux joueurs, aux gens qui blasphèment, aux femmes qui sont trop bien habillées, aux sodomites, etc. Voilà, ceux qui transforment le carnaval en procession où on brûle les vanités. Enfin, voilà. Donc, Luca Landucci aura ses enfants qui feront partie de ces fanciulli del frate et il sera très bouleversé par le procès de Savonarole le fait que Savonarole admettra dans les actes de son procès qu'il n'avait pas d'inspiration divine directe, que c'était par doctrine qu'il savait ça et pas par la parole directe de Dieu. Voilà, tout ça pour vous situer Luca Landucci. Et donc, voilà, voilà comment il décrit cette journée du Parlamento. Et a dit, 2 di dicembre 1494, martedì, si fece Parlamento in Piazza dei Signori, circa ore 22. Donc ça veut dire 2 heures avant le coucher du soleil. Hein? Donc on est en hiver, donc c'est 3 heures l'après-midi, un truc comme ça. Hein? Ouais. Et venne in piazza tutti gonfaloni, che ognuno aveva dietro tutti i suoi cittadini senza arme. Solo fu ordinato armati assai alle bocche di piazza. Alors, quelques commentaires sur le Parlamento. Parlamento, c'est le reste de l'hypothèse que c'est l'assemblée des citoyens qui est la forme même du pouvoir, enfin, hein, le lieu d'où peut être après confié le pouvoir à des magistratures, des formes spécifiques, des balis, c'est-à-dire des moments de pouvoir extraordinaire ou des moments de potestas normal où on donne aux institutions. Mais c'est donc cette assemblée du peuple qui est le lieu d'où part cette hypothèse que la légitimité va naître de là. Hein. Alors là, vous voyez que là, Parlamento, où il se réunit, donc Piazza dei Signori, il y a la cloche du palais de la Signorie qui appelle, hein, pendant suona a Parlamento, il y a une façon de sonner que je pourrais pas vous refaire ici, mais bon, voilà. Donc on sait que c'est Parlamento, donc tous les citoyens quittent leurs occupations, leurs maisons, leurs boutiques, etc., se dirigent vers la Piazza dei Signori. Et ils viennent organisés par quartier, et même par gonfalon. Alors, gonfalone, c'est le quart d'un quartier. Voilà, il y a 4 quartiers, comme son nom l'indique, comme le nom l'indique, et dans chaque quartier, il y a 4 gonfaloni, avec un chef de gonfalon, hein, qui est un des 16, voilà. Donc il y a 16 gonfalons, et ils ont effectivement une bannière. Hein, qui... Et vous voyez qu'ils viennent sans armes. En revanche, et là c'est évidemment pour protéger les citoyens, mais c'est aussi pour pour exercer une amicale pression. Ils vont tous sans armes sur la place, et puis à ce moment-là, la place est bloquée par Armati Assai alle Bocche di Piazza. Hein, donc, les endroits où on rentre sur la place sont bloqués par des gens en armes. Bon, on se sent. Hein, c'est comme un peu quand notre camarade Sarkozy nous envoie les CRS, machin, on se sent bien, on est tranquille. On peut vaquer à ses occupations. Là, c'est pareil, les citoyens sont là, bien, tranquilles, au milieu de la place, et sont protégés s'il y avait des voyous qui voulaient les attaquer. Voilà. Hein? Bon. Et, alors, donc, Parlamento. Et à ce moment-là, laissez-y molte cose, statuti che furono parecchi fogli scritti. Ce qui se passe, c'est qu'il y a le notaire de la seigneurie, qui donc a écrit les propositions de loi, etc. Donc en fait, il commence toujours par dire, d'ailleurs il le dit, « Prima fu dimandato al popolo se in piazza era i due terzi dei cittadini », qui est le quorum. Évidemment, tout le monde dit oui, voilà. Personne ne sait s'il y a les deux tiers des citoyens. Hein. Mais bon, tout le monde dit oui, et à ce moment-là, le notaire qui est sur le balcon lit donc les parecchi fogli scritti qui ont été rédigés par la signorina. Alors, donc, question, est-ce qu'il y a les deux tiers des citoyens? Oui, oui, fu risposta da circostanti che sì. Allora si cominciò a leggere. E dissono, nei detti capitoli, che annullavano tutte le leggi dal 34 in qua. E annullavano e 70 e 10 e 8 di Balia, e che si dovessi fare col consiglio del popolo e comune e serrare le borse e fare a tratte come si soleva vivere a comune e fare uno iscuttino più presto si potrà. E per al presente facevano 20 uomini dei più nobili e savi che avessino a fare al presente la signoria e gli altri uffici, insieme alla signorina e collegi, tanto fussi ordinato lo scuttino. Donc là, vraiment, le Parlamento du 2 décembre 1494 remet en place les fonctionnements traditionnels, au sens où ce sont les fonctionnements d'avant 1434, et l'expression est come si soleva vivere a comune, hein, comme on avait l'habitude de vivre dans la comune, voilà, dans la République de Florence. Alors, vous voyez, annulation des lois médicéennes, annulation des conseils médicéens, hein, les 70, les 10 et les 8, qui avaient été donc des instruments de la politique médicéenne. Également, le Conseil des 17, qui était un conseil qui avait été mis en place, le Conseil des 70 et le Conseil des 17 avaient été mis en place par Laurent après la Congiura dei Pazzi en 1478. Voilà. Donc, on ne prend plus ces conseils restreints qui sont les conseils médicéens, ce ne sont plus eux qui vont voter les provisions, donc les lois, etc. Ce sont les conseils qui, évidemment, n'avaient jamais été annulés par les Médicis, mais ne jouaient plus de rôle décisif, parce que c'était ces conseils restreints qui jouaient le rôle décisif, qui prenaient les décisions. Donc, on décide que si dovessi fare col consiglio del popolo e comune. Alors, il faut faire, più presto si potrà, uno scrutino, donc le scrutin, le scrutino, c'est une opération assez complexe, dans laquelle on met dans les borse, hein, vous voyez l'expression, la serrare le borse, fare uno scrutino, più presto si potrà. Donc, cette opération assez complexe, dans le cadre d'un TD, on lira des textes qui explicitent ça pour que vous ayez une idée précise de comment ça marche. Mais en gros, la signoria décide d'un très grand nombre de gens, enfin bon, tous les gens élus, plus des gens qui sont nommés en plus, etc., qui, eux, par quartier, mettent dans les borses, dans les différentes, parce qu'il y en a pour la... Il y en a pour le gonfaloniere, il y en a pour les priori, il y en a pour i dodici buoni uomini, et donc les collèges, ça fait 38 personnes, les 16 chefs de gonfalon et puis dodici buoni uomini, dont ils mettent des bulletins avec le nom des citoyens dès lors que, quand on dit un nom, donc ça dure très longtemps, parce qu'il y a en gros, il y a des nominés, après on fait un vote avec des... On vote avec des fèves. Hein. Donc, celui qui a la metà delle fave et una più, on le met dans le truc. On le met dans la bourse. Alors, le coup des Médicis, c'était de dire on n'a pas fini, etc. On ne peut pas serrare les bourses. Tant qu'on n'a pas serrate les bourses, à ce moment-là, on peut dire, ben on va faire une mesure provisoire. La mesure provisoire, c'est que des gens qui s'appellent les accoppiatori choisissent eux-mêmes une série des bulletins avec les noms des gens, et puis ils tirent au sort, ils en mettent trois, et ils tirent au sort. Comme ça, ils ont choisi les trois, ils ont tiré au sort, c'est un tirage au sort, mais évidemment, c'est pas avec la borsa où il y a des centaines de noms. Quoi. Ouais. Donc, serrare les borses, c'est vraiment un enjeu décisif. Parce que ça veut dire qu'on remet en place l'ensemble du système, donc nomination, élection des éligibles et tirage au sort. C'est ça le système d'avant les Médicis. Et en gros, système que les Médicis arrivent à pratiquement ne jamais respecter, ou en tout cas ne respecter que très ponctuellement, quand vraiment il y a une pression très grande. Mais en règle générale, ils arrivent à éviter de serrer les bourses, et comme ça, ils peuvent en fait désigner, hein, ce que nous disait tout à l'heure Guicciardini, quand il parlait de hein, les magistrati si creavano a modo suo. C'est comme ça que ça fonctionnait. Donc là, remise en place du système. Hein. Et, bon, per al presente, puisque donc, c'est long, c'est un processus lourd qui dure vraiment des semaines et des semaines de faire le scrutin, eh bien, il y aura 20 accoppiatori, hein, 20 accoppiatori, dei più nobili e savi della città, enfin, voilà, hein, bon. Ce qui veut dire, en clair, les grandes familles issues les grandes familles de l'oligarchie florentine mettent en place un système pour rétablir le système qui était celui qui assurait leur prééminence sur la cité avant 1434 et la mise en place du système médicéen. Voilà. Alors, vous voyez, là, cette hypothèse-là, c'est définition de ces 20 citoyens par Bartolomeo Ceretani dans Storia Fiorentina. 20 cittadini dei primi della città con pienissima autorità e massime di creare lo illustre magistrato della signoria e gonfaloniere. Voilà. Alors, la chose pourrait paraître entendue. Elle ne l'est pas. Elle ne l'est pas du tout. Elle ne l'est pas du tout. Parce que il y a un débat qui a commencé à ce moment-là. Hein, un débat qui a commencé à ce moment-là. Qui va durer, donc qui va amener à des prises de position, à des textes, à des délégations, hein, et qui va aboutir trois semaines après ce Parlamento, puisque la provisione qui fixe la mise en place du Consiglio Grande est du 22-23 décembre. Donc en trois semaines, Il y a un renversement dans la cité, puisque on passe d'une décision qui était celle de la signoria et des grandes familles de remettre en place à l'identique pratiquement les formes de la République d'avant 1434. Donc on redira, c'était une parenthèse, revenons à la période antérieure. Et c'est pas à ça qu'on aboutit trois semaines après, puisque trois semaines après, on a la mise en place du Concilio Grande. Alors, là, le petit texte de Piero Parenti, Piero Di Marco Parenti, dans sa Storia Fiorentina, c'est intéressant, ça montre que très très vite, c'est quelques jours seulement après, le Parlamento, il y a une délégation de, donc, ce qu'ils appellent, la traduction en français fait rire parce que c'est uomini di mezzo, évidemment, c'est les hommes du milieu chez nous, avec les, avec les films policiers, évidemment, prend un autre sens. Mais voilà, ceux qui sont ni la plèbe, ni dans les grandes familles. Donc les gens, justement, des arti minori, gli artigiani, uomini di mezzo, les citoyens médiocres, enfin, voilà, qui vont contraddire il Parlamento parendo che non popolarmente si procedessi, con ciò fussi che a 20 uomini autorità si desse, esoso era il dare ai cittadini autorità. Voilà, donc, c'est, il vient de dire que c'est pas un vivere popolare, celui dans lequel on donne à 20 parmi les premiers de la cité le droit de désigner eux-mêmes les magistrats. Alors, ce qui va, en tout cas, ce qui va être l'expression d'un courant, d'un fort courant à l'intérieur de la, des Florentins, y compris chez les, dans les grandes familles, d'un fort courant vers le vivere popolare, c'est précisément l'intervention publique de Girolamo Savonarola. Évidemment, l'intervention publique, elle ne fonctionne qu'à partir du moment où elle exprime. C'est pour ça que je vous ai mis cette anecdote, enfin, de la délégation là, qui va contraddire il Parlamento. Cette parole de Savonarole va être introduite dans les fonctionnements de la République florentine, una cosa nuova mai più usata nella nostra città. Parce que faut bien vous dire ça, c'est que cette introduction à la fin du mois de décembre du Concilio Grande, c'est una cosa nuova mai più usata nella nostra città. Une chose inouïe, inédite. Voilà. Jamais personne n'a pensé à un truc pareil. Et là, ça naît. Alors, voilà un texte, là, ce texte-là, là, pourquoi il me fait ça, lui ? Un texte, c'est un des textes, c'est un de ces textes, il y en a toute une partie, et dans un petit livre de Guido Baldo, Guidi, qui est un érudit florentin, un érudit florentin, auquel on doit des très gros livres, ou d'autres un peu plus petits, mais avec un travail d'archives énorme, parfois un peu de confusion, c'est-à-dire, je vous conseille pas d'aller le lire, en revanche, c'est une mine. je vous conseille d'aller le lire si un jour vous décidez de travailler sur Florence à cette époque, faut le lire. Parce que il a dépouillé les archives. Mais là, ces bouquins, c'est des fiches collées les unes aux autres. Donc, les bouquins sur les institutions, où il y a trois volumes chez Holsch, qui trois volumes de 400 pages, avec les fiches, on comprend rien. On comprend vraiment rien. Mais bon, de temps en temps, il sort des bijoux, quoi. Il sort des bijoux. Et dans ce petit livre qui s'appelle Ciò che accade a Firenze durante la Signoria di novembre dicembre 1494, il est aussi très bon pour les titres ramassés et efficaces. Et il y a toute une série de textes inédits jusqu'à présent sur la période. Et celui-là, je l'ai pris parce que il me semble que l'analyse de cet auteur anonyme est très 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 nette. Hein, je vous lis. Ma ora, che è spenta la tirannide al tutto, e che ognuno è volto a libertà e egualità e fermezza, e che Dio ci invita per bocca di chi ci ha pronunciato e profetato il vero nell'altre grande cose, Savonarola, no? Chi ha di, no? Gladium Domini cito et velociter, ils vont venir. Hein, le nouveau Cyrus va venir. Et tac, il vient. Bon, ouais. Il venait pas, personne se souvenait qu'il avait dit ça, mais il vient. Donc, il l'a dit, il l'a annoncé. Hein, qui a pronunciato e profetato il vero nell'altre grande cose. Donc, dobbiamo credere che è il tempo pigliare la nostra salute e mutare scoglio, massime, leggendo che ogni altra grazia di prossimo avuta è suto fuori ad ogni opera umana, è suta straordinaria, per questo dobbiamo ancora noi uscire dall'ordinario, no? Uscire dall'ordinario, e pigliare nuova forma e imparare da nostri vicini che già mille anni sono stati saldi in uno stati, in uno stato, e seguitarli in parte secondo che patisce la condizione della terra nostra. Alors vraiment, on a vraiment un résumé de l'analyse qui va être celle de la majorité des citoyens florentins. Situation extraordinaire, chute de la tyrannie des Médicis, aspiration au fondement même de ce qu'est la République, Libertà et Qualità. Situation extraordinaire. Hein, extraordinaire, et donc, uscire, il faut prendre des décisions et uscire dall'ordinario. Vous voyez, en même temps, la mise en place du vocabulaire qui va être le vocabulaire de Machiavel. Hein, c'est le vocabulaire de Machiavel. C'est-à-dire que quand il y a du extraordinaire, ce qui sort des fonctionnements habituels, eh bien, il faut être capable de mettre en place des modi straordinari. Il faut être capable de uscire dall'ordinario, dans le sens. Sortir des fonctionnements normaux. Hein. C'est-à-dire, quand vous entendez ordinario, straordinario, vous devez entendre derrière un terme qui est récurrent dans les textes que vous avez lus, qui est le terme ordiné. Hein. La façon, les procédures, à la limite les institutions, qui sont les institutions du fonctionnement normal de la cité et de la République. Et lo straordinario, c'est le moment où il faut être capable de sortir de ces fonctionnements, de ces institutions habituelles pour mettre en place des choses qui correspondent à la nouveauté de la situation, des choses qui correspondent à la qualité des tempi, des choses qui correspondent à la conditionnalité des tempi. Et alors, vous voyez que dans ce texte-là d'anonyme, eh bien, il y a cet ajout que cette analyse-là, elle vient de celui qui déjà nous a annoncé, donc le prophète, ou du moins l'homme doué de paroles prophétiques, hein, qui nous a annoncé ce qui allait advenir. Et là, évidemment, il s'agit de Savonarole. Il s'agit de Savonarole. Et donc là, c'est parce que pendant toute cette période, et là on peut suivre jour après jour, hein, par l'édition des Prediche sopra Geo, qui sont prononcées en novembre-décembre 1494, la façon dont Girolamo Savonarola introduit des hypothèses de réforme de Florence en aidant à la réforme de Florence pour aider à la réforme de Florence, on peut regarder, dit-il, vers, hein, rappelez-vous de la phrase imparare da nostri vicini, che già mille anni sono stati saldi in uno stato. Ses voisins sont évidemment les Vénitiens, hein. Donc l'hypothèse étant que si ça fait, ben, ils exagèrent un peu en disant 1000 ans, mais enfin la serrata del Gran Consiglio et donc la mise en place des institutions vénitiennes qui après pratiquement ne bougent plus jusqu'à la chute de la République avec avec l'arrivée des troupes de Napoléon, hein, c'est 1297, hein. Donc là ça fait pas 1000 ans, mais ça fait quand même bien 2 siècles qu'en effet Venise a mis en place des institutions. Et notez bien que notre anonyme précise bien, c'est un Savonarolien l'anonyme, hein, c'est vraiment un Savonarolien, c'est vraiment les thèses, mot à mot, les thèses de Savonarole. Il faut regarder vers eux, il faut apprendre d'eux, imparare, et seguitarli in parte. Seguitarli in parte. Secondo che patisce la condizione della terra nostra. Donc, on a besoin de moyens qui sortent de l'ordinaire, on a besoin de moyens de modi straordinari, de forme nuove, hein, nuova forma. Regardons ce que font les Vénitiens, puisque ça fait des siècles que ça marche, et voyons ce qui, dans leurs institutions, dans leur fonctionnement politique, peut être appliqué à Florence. Alors, ce qui va être appliqué à Florence, c'est donc le Concilio Grande, et ce qui sera appliqué à Florence, mais plus tard, pas dans cette première étape, mais 8 ans plus tard, en 1502, ça sera quelque chose qui ressemble au Doge. Parce que le Gonfalonier à vie, ça ressemble au Doge. Hein? Et vous verrez, vous l'avez déjà vu en lisant le dialogue del Reggimento di Firenze, que pour les patriciens, les grandes familles florentines, il y a une pression permanente pour dire « Et il manque encore quelque chose, c'est le Sénat. » Et il manque encore quelque chose, c'est un conseil permanent formé des meilleurs, etc., des uomini prudenti et savi et tout. Mais ça, bon, ça ne se réalisera pas avant 1512. Mais en tout cas, ouais. Alors, l'idée que Savonarole joue un rôle déterminant, là, c'est vraiment une idée, je crois qu'elle est vérifiable, enfin, assez aisément, mais dans, il faut dire, les sermons sur AG, assez clairement, leur dit, faites ci, faites ça, etc. Voilà. Mais c'est un point assez communément partagé par l'historiographie florentine de l'époque. Hein. Donc là, je vous ai mis 2 textes, un de Guicciardini, La Storia d'Italia, et un de Donato Gianotti, plus tardif. Hein. Non, enfin, pas plus tardif que La Storia d'Italia, à peu près à la même époque, pardon. Guicciardini avrebbe dei consigli nel quale non interveniva un numero molto grande di cittadini, potuto più quella sentenza che tendeva alla forma non tanto larga di governo, no? Che il débat en gros è entre vivere popolare largo, governo largo, o bien repubblica ma governo stretto. Se nella deliberazione degli uomini non fosse stata mescolata l'autorità divina per la bocca di Geronimo Savonarola da Ferrara, frate dell'ordine dei predicatori. No? Se diciamo le cose, qua. Giannotti, Paella, fu ordinato in quel tempo con l'aiuto di Fra Girolamo Savonarola, uomo prudentissimo, il Consiglio Grande. Donato Giannotti, c'est quelqu'un qui, dans la Seconde République, hein, celle de 1527-1530, joua un peu le rôle que Machiavel jouait entre 1498 et 1512 à Florence. Il a à peu près les mêmes fonctions dans le fonctionnement du gouvernement. Ouais. Donc, vous voyez que c'est des lectures et des analyses qui restent sur la période. On dit cette période, elle est marquée par ça, hein. Il y a vraiment pratiquement 40 ans où l'expression que j'aime bien, c'est dans un ricordo de Guicciardini dans lequel il dit avendo gustato il Consiglio Grande. Hein? Et, voilà. C'est une période dans laquelle les Florentins ont à la bouche le goût du Grand Conseil. Hein? Et voilà. Ça reste dans les têtes, ça reste dans les réflexions politiques, etc. Alors, ce qui est intéressant à savoir, c'est que Savonarole inscrit sa proposition de réforme de Florence à l'intérieur d'une analyse générale de ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire que c'est sans doute le premier en Italie qui donne un sens prospectif à ce qui est en train de se passer, au bouleversement que les gens sont en train de vivre. Alors, il le donne, évidemment, avec ses instruments à lui, qui sont les instruments de la religion, de la tradition de lecture thomiste d'Aristote. Mais il donne ça. Hein, il donne une lecture de cette période de crise. Hein. Il présente Charles VIII comme le nouveau Cyrus, hein, le nouveau Ciro, Florence comme la nouvelle Jérusalem. Et c'est donc dans ces termes, qui sont les termes de la spiritualité et de la religion, ce qui se définit là, c'est un moment historique spécifique dans lequel Florence va jouer un rôle déterminant à l'échelle de l'Italie, mais aussi du monde, enfin du monde tel qu'il est conçu au moment où il écrit. Hein. C'est-à-dire qu'il y a la réforme de Florence, città rinnovata, cette réforme politique, religieuse, morale, va s'étendre à toute l'Italie, à tous les états de la chrétienté, et même au monde entier, car les infidèles, voyant cette transformation du monde de la communauté des catholiques, se convertiront. Voilà. Avec l'idée que si quelque part, hein, c'est une idée qu'on trouve dans beaucoup d'idéologies dans l'histoire de l'humanité, que si dans un lieu se réalise la fusion de tous, l'unité de tous, la transformation de la communauté en une unité, hein, il y aura une espèce de propagation nécessaire de ce bien, puisque c'est le bien suprême que la transformation en un des diversités, que la diversité se fusionne en un. Et alors, là, c'est une formule où il dit ça, dans les sermons sur Agé, précisément, « Sarai tu Firenze ». Donc, « Riformazione tutta l'Italia ». Et qui comincerà la rénovazione. Non, c'est la rénovazio. Espanderassi di qui per tutto, perché questa è l'umbilico della Italia. No? L'umbilico della Italia. Alors, il y a d'autres formules qui disent Florence est au milieu de l'Italie comme le cœur au milieu du corps. Hein, donc voilà, cette idée de la centralité de Florence. Hein, donc, avec évidemment ouais, des métaphores, donc la centralité géographique qui devient une centralité politico-religieuse. Hein. L'idée que donc cette rénovatio, si elle est accomplie, elle ne s'arrêtera pas. Hein, elle ne s'arrêtera pas. Elle, peu à peu, elle transformera toute l'Italie, puis le monde, parce que les Turcs, voyant ça, se convertiront, etc. Quand la loi fondant le Grand Conseil est présentée, on dirait qu'en 3 semaines, hein, tout ce qui était en place au moment du Parlement du 2 décembre a été comme ça transformé. Hein, ce sera une des. Évidemment, une des preuves de la comme ça, l'autorité divine, que l'autorité divine était présente, hein, cette espèce de transformation, hein, puisque elle est votée à l'unanimité des signori et des collegi, hein, donc collegi, c'est le terme qu'on dit pour désigner justement ces 12 buoni uomini et les 16 gonfaloniers de compagnie. Hein. Donc les signoria et collegi, c'est ce qu'on appelle i tre maggiori uffici. Tre maggiori uffici. Unanimité. Consiglio del popolo. 289 fèves noires. La fève noire, c'est celle qui dit oui. 35 fèves blanches. Consiglio des communes. 187 fèves noires, 17 blanches. La décision fut prise con tanta facilità che detto aresti controversia auta mai non ci fussi. Écrit Piero Di Marco Parenti dans sa Storia Fiorentina. Pourtant, il y avait controverse, pourtant, il y avait opposition, pourtant, il y avait un tout autre point de départ le 2 décembre. Eh bien, voilà. Con tanta facilità. Et le texte énonce, donc c'est intéressant de le lire, voilà. Il Consiglio Grande a tutta l'autorità, potestà e balia. Quanto a tutto il popolo e comune di Firenze, nessuna cosa eccettuandone. Hein? Donc, balia, pouvoir extraordinaire, le moment de pouvoir extraordinaire. Hein? Donc, la balia, c'est le moment où on pense qu'il faut de conférer sur certains aspects ou surtout un pouvoir extraordinaire à une instance extraordinaire. Donc c'est à la fois le pouvoir extraordinaire et l'instance qui, dans des moments spécifiques, à laquelle est accordé, dans des moments spécifiques, ce pouvoir extraordinaire, la balia. Donc c'est le Grand Conseil qui doit voter les lois présentées par la Seigneurie, établir les normes de prélèvement des impôts, distribuer les charges publiques, jouer le rôle d'une sorte de tribunal d'appel administratif. Il est formé de tous les beneficiati. Alors ça, c'est beneficiati, c'est-à-dire tous les hommes âgés de plus de 29 ans, dont l'un des ancêtres a été éligible ou élu. En florentin de l'époque, ça se dit Vedoutan, Vedoutan, éligible, Sedoutan, élu. Alors, c'est un mécanisme assez complexe que je vous décrirai à un autre moment, mais pour le dire très brièvement, il peut arriver qu'on tire le nom de quelqu'un et qu'il soit pas, qu'il n'est pas, pour des raisons qui peuvent être son âge, parce qu'en fait, comme ça dure très longtemps, le scouting, on met des gens qui ne sont pas... à l'âge normal, ils n'ont pas encore 29 ans. Ils sont tout petits, ils ont 15 ans, mettons. Donc on ne peut pas les mettre déjà en fonction. Mais en revanche, ils sont dans la bourse, parce que si on n'est pas dans la bourse, comme il n'y aura pas de scouting avant peut-être 5, 6, 10 ans, on ne sait pas combien de temps il y aura, si on ne le met pas, il ne sera jamais. Donc on le met même quand il est tout petit. Mais si c'est lui qui est tiré, on peut pas le mettre à la magistrature. Voilà. Hein? Donc on peut être... Ou alors, il peut se faire qu'on tire le nom, et donc, on tire le nom, donc on sait qu'il est Vedoutan. C'est même le seul moment où on est sûr qu'il était dans la bourse quand il est tiré. Parce que sinon, personne ne doit le savoir. Alors, et puis on se rend compte à ce moment-là qu'il n'a pas payé les impôts. Il est ce qu'on appelle aspecchio. Aspecchio. Être aspecchio, c'est-à-dire que t'as pas payé ce que tu devais à la République. Donc, tu peux pas être élu. Mais quand même, tu es Vedoutan. Donc, on sait que t'étais parmi les gens susceptibles d'être. Voilà. Et alors, ajout, dans les signori, et plus encore dans Buoni Uomini et les Gonfalonieri di Compagnia, il y a au moins un quart des gens qui viennent des arts mineurs. Donc, c'est-à-dire, quand on dit beneficiate et qu'on dit beneficiato, tous les gens qui ont eu un ancêtre, hein, remontant à l'arrière-grand-père, qui a été seduto o veduto dans un des tre maggiori uffici, ça fait pas mal de monde. Ça fait en gros 3500 personnes. Ça fait 3500 personnes, ce qui n'est pas négligeable du tout dans une ville comme Florence. Hein, pas négligeable du tout. On sait que Félix Gilbert, qui avait là, calculé dans son Machiavel et Guicciardini, il avait calculé que ces 3000 et quelques citoyens admis à participer à l'instance, de la République à l'instance souveraine de la République florentine représentent environ un homme adulte dans leur sens à eux, c'est-à-dire âgés d'au moins 29 ans, hein, sur 4. Il a calculé ça, bon, c'est au pif, hein, c'est à la louche, mais enfin bon, ça donne une idée, quoi. C'est pas du tout ridicule. Alors, dernier point, dans les mois qui suivent, d'autres décisions viendront préciser la réforme du gouvernement de Florence. Amnistie générale pour les crimes politiques du passé, et instauration d'une procédure d'appel dans les cas de condamnation pour les crimes contre l'État. Ça, c'est important. Hein, c'est important. C'est la loi du 19 mars 1495. C'est important parce que c'est précisément une loi qui ne sera pas appliquée par les Savonaroliens au moment où ils diront qu'il y a une conjuration des Médicéens à Florence, et ils condamneront les Médicéens, dont Bernardo del Nero, à mort, hein, dont Bernardo del Nero sera condamné à mort. On leur refusera le droit de faire appel malgré cette loi. Et vous savez que dans les discours de Machiavel, il y a un des discours où il explique que c'est sans doute la non-application de cette loi par Savonarole et les siens est sans doute une des raisons du renversement du rapport de force à l'intérieur de la cité. Hein? Et de la chute, peu de temps après, de Savonarole. Hein? 9 mois après de Savonarole. Donc, amnistie et procédure d'appel. Ensuite, autre point important, 95, le 10 juin 1495, la démission des 20 accoppiatori et la transmission au Grand Conseil de leur pouvoir de nomination de la Signoria et des autres conseils. Enfin, toujours en 95, mais le 13 août, une loi qui interdit le Parlamento, en disant que le Parlamento est une forme, en gros, fourvoyée, une forme fausse, hein, de souveraineté, et qu'en fait, c'est une manipulation. Et de fait, c'était un des instruments principaux que les Médicis avaient appliqué pour établir leur pouvoir sur la cité. Alors, ce qu'on peut dire là, et on s'arrêtera ici pour cette séance, on peut dire que le Grand Conseil va produire, hein, c'est une dynamique idéologique, hein, il devient une sorte de symbole du peuple florentin, de la potestas du peuple florentin. Et ça sera un enjeu pendant toute la période qu'on considère, puisque la première mesure prise par le Parlamento, qui lui, précisément, entérinera le retour des Médicis en 1512, sera l'abolition du Grand Conseil. À l'inverse, dès que les Médicis seront repartis après le sac de Rome et en 1527, les Républicains vont le remettre en fonction. Il faudra le retour définitif des Médicis en 1530, après le siège, pour qu'il ne soit plus loisible à un Florentin habitant sa cité de penser la libertas comme liée au Grand Conseil. Hein, il n'aura plus, à ce moment-là, le goût, hein, du Grand Conseil en bouche, mais déjà, dès lors, hein, il n'y aura plus de citoyens florentins, mais des sudditi, des sujets. On s'arrête là pour la séance d'aujourd'hui. La semaine prochaine, le débat interne et l'institution du Gonfalonier à vie, 1494-1512.